Bonsoir. Le groupe d'études sur le Congo GEC en sigle évoque des risques de nouvelles violences dans les Kasaï. Dans un rapport publié la semaine dernière, cette structure des recherches de l'Université de New York dénonce un recours disproportionné de la force pour réprimer la violence et regrette que le gouvernement ne se soit pas attaqué aux causes profondes du conflit. Pour sa part, la société civile du peuple, une organisation de la société civile du Grand Kasaï, à travers son rapport publié cette semaine sur le phénomène Kamuina-Nsapu, salue le travail des FRDC pour rétablir l'ordre et la paix dans cette partie du pays. Comment analyser ces rapports? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Maître Jean-Claude Katende, il est président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, en sigle. Bonsoir Maître Jean-Claude Katende.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Emmanuel Isaac Kapukapu, président provincial de la Société civile du peuple, une organisation de la Société civile du Grand Kasaï. Bonsoir, monsieur Emmanuel Isaac Kapukapu.
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi.
Et professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Et bonsoir, professeur Moïla Tchiembe.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le groupe d'études sur les Congo GEC en sigle évoque des risques de nouvelles violences dans les Kasaï. Dans un rapport publié mardi, ces projets de recherche de l'Université de New York revient sur les terribles violences qui ont déchiré cette région du centre de la RDC, faisant des milliers de morts. Joël Bofongo a lu pour nous ces rapports, il nous en fait le résumé.
Le GEC note dans son rapport que le conflit qui a commencé comme un différend coutumier s'est propagé dans quatre provinces de la région avec la prolifération des groupes armés, notamment au Kasaï et au Kasaï central, et une réponse disproportionnée des forces de l'ordre. Le document accuse les milices Kamuina-Nsapu d'abus graves, notamment les recrutements des enfants qui en constituaient 60% des effectifs. Le rapport indique que les combattants Kamuina-Nsapu pouvaient être brutaux, se rendant notamment coupables des mutilations et des décapitations des employés du gouvernement. Face à cette insurrection, note le GEC. Le gouvernement a réagi avec une force extrêmement disproportionnée. Le groupe d'études cite notamment les cas des massacres perpétrés dans la commune de Langanza à Kananga, où, lit-on dans le rapport, des unités spéciales de l'armée ont tué des centaines de personnes. Le rapport aborde également l'ethnicisation du conflit avec la constitution de la milice Banamura, composée principalement des membres des communautés Tchokwe et Pende. Ces miliciens sont accusés de massacres qui auraient fait des centaines de morts dans les communautés Luba et Lulua. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Merci à vous, Joël Bofengo. Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle. L'un des éléments qui attire l'attention dans ces rapports publiés par le GEC, c'est le fait que ces rapports parlent des risques des nouvelles violences dans les Kasaï. Et Maître Jean-Claude Katende, vous n'êtes pas membre des GEC, mais en tant qu'activiste des droits de l'homme et l'une des personnes, n'est-ce pas, avoir observé l'évolution de la situation sécuritaire au Kasaï, vous pensez que le GEC a de bonnes raisons de tirer la sonnette d'alarme sur les risques de nouvelles violences dans les Kasaï?
Je vous remercie pour la question, Monsieur Guy Maté. Je voudrais rappeler aux auditeurs de la radio Okapi que l'ASADO, dans le cadre de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, nous avons produit un rapport très important sur les massacres au Kasaï. Et donc, sur base de notre propre rapport, nous pouvons dire que l'EGEC a effectivement raison, parce que toutes les recommandations que nous avons faites dans notre rapport n'ont jamais eu un début d'application dans les chefs des différentes institutions auxquelles ces recommandations étaient faites. Et donc, tant que la situation est connue comme étant explosive dans le passé et qu'aucune recommandation faite par les différentes parties prenantes qui étaient intéressées à cette situation du Kasaï n'ont pas été mises en application, la conclusion est que la situation que nous avons connue peut toujours se reproduire. Et là, je pense que EGEC a effectivement raison.
Oui, vous parlez des recommandations. Quelles sont ces recommandations qui ont été formulées par différents rapports, notamment les vôtres?
Notre rapport a demandé d'abord que les enquêtes indépendantes soient faites pour que tous les coupables et leurs commanditaires soient punis. Vous savez qu'il y a eu des procès qui avaient commencé au Kassai, on n'en connaît pas l'issue aujourd'hui. Et nous ne sommes pas aussi sûrs que tous les commanditaires dans la hiérarchie militaire, au sein de la police, mais aussi des responsables politiques ont été identifiés et poursuivis. En dehors de cette recommandation, nous en avons d'autres qui concernent notamment les mesures qui devaient être prises pour restaurer les services des bases dans le Kassai. Les services des bases, c'est notamment les écoles, les hôpitaux, mais aussi tous les services relatifs à l'administration publique. Et ces services ne sont pas fonctionnels. Les écoles n'ont pas été construites. Et les hôpitaux aussi n'ont pas été reconstruits. Et donc, aujourd'hui, même les personnes qui retournent, qui reviennent dans leur village, dans leur ville, il n'y a aucune mesure prise par le gouvernement pour assurer leur réinstallation. Vous voyez, toutes ces recommandations n'ont jamais été mises en œuvre. En ce qui concerne, par exemple, les recommandations qui ont été faites lors de la conférence du Forum sur la paix au Kassai, il n'y a rien qui puisse aujourd'hui nous garantir que les résolutions ont été appliquées. Donc, quand vous regardez les recommandations faites par les ONG, par les humanitaires, mais aussi par les institutions qui ont travaillé dans le Forum sur la paix, il n'y a aucune qui ait été exécutée de manière sérieuse. Et tant que ces recommandations ne sont pas exécutées, la situation que nous avons connue il y a quelques mois peut revenir. Et je voudrais insister sur le fait que entre le mois de juin et le mois de juillet, il y a eu une grande insécurité dans la ville de Kananga. On a tué les gens, on a violé les femmes, on a assassiné des gens. C'est une situation récente. Et ceux qui vivent dans cette ville de Kananga, qui nous suivent, ils savent effectivement que nous avons raison. L'insécurité bat son plein dans la ville de Kananga.
Oui,
et
maître.
Dans ces conditions-là, il est tout à fait normal que si des mesures ne sont pas prises, que la situation puisse revenir comme par le passé.
Oui, maître, vous évoquez les recommandations qui n'ont pas été prises en compte et aussi les mesures pour restaurer les services de base et aussi l'insécurité qui est toujours de mise. Et vous avez évoqué les cas, n'est-ce pas, qui ont été perpétrés les mois passés. Mais on se rappelle que le gouvernement avait posé quand même certains actes qui allaient, n'est-ce pas, dans le sens d'une réconciliation, notamment en prenant acte de l'intronisation par la famille du nouveau chef Kamuina Nsapu. Et la même personne, le nouveau chef, donc, avait été reçu par l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chadari. Et on se rappelle aussi la conférence sur la réconciliation et le développement du Kassai, organisée à Kananga en septembre 2017. Même si vous dites que les recommandations de cette conférence n'ont pas été prises en compte. Et donc, le GEC veut dire que ces actes n'ont pas suffi pour prévenir de nouvelles violences.
Non, mais je pense qu'il est important de mentionner le fait que tout ce qui a été fait pour que le nouveau chef soit intronisé, nous pensons que c'est une bonne chose. Une grande revendication dans ce cadre-là, c'est le fait que les populations du Kassai ne veulent pas que les chefs coutumiers soient un homme qui puisse appartenir à une aile politique quelconque, comme c'est le cas aujourd'hui où plusieurs chefs coutumiers sont affiliés directement ou indirectement à la majorité présidentielle. Ça, c'était la grande revendication, que les chefs coutumiers soient libres, parce qu'un chef, il est le chef de tout le monde. Mais nous voyons que la tendance, c'est que tous les chefs coutumiers, ou pour la plupart, on les oblige ou sont toujours inféodés à la majorité présidentielle. C'est là où il y a les problèmes. C'est ça la grande revendication. Qu'on ait installé un nouveau chef ou pas, tant que cette revendication va demeurer, les problèmes sont toujours là.
Oui, maître, la société civile du peuple, qui est une structure, n'est-ce pas, de la société civile des Grands Kassai, a aussi publié son rapport sur le phénomène Kamouina-Sapou. Et dans ces rapports, cette société civile salue le travail des FRDC pour le rétablissement de l'ordre et de la paix dans l'espace Kassai. Comment vous réagissez aux propos, n'est-ce pas, de cette société civile du peuple?
Je pense que c'est encore là l'erreur. Pour la simple raison que pour les conflits qui arrivaient au Kassai, on ne peut pas privilégier une seule solution, c'est-à-dire la solution militaire. Et vous savez que la manière dont la police, l'armée, ont opéré dans l'espace Kassai, on a étouffé les revendications des gens. Donc, la solution militaire ne peut pas être la seule qui puisse apporter la paix, la sécurité dans le Kassai. Il faut aller au-delà de la solution militaire.
Merci.
Et au-delà de la solution militaire, nous pouvons rencontrer les préoccupations des gens. Les préoccupations des gens, c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un grand chômage au Kassai. Les jeunes ne sont pas occupés. Vous voyez? Et donc, tant qu'une solution ne sera pas trouvée de ce côté-là, il y a toujours des problèmes.
Merci.
Un autre problème, c'est comme nous disions, en ce qui concerne les services de base. Une autre question, c'est celle qui concerne notamment les déplacés qui reviennent. Quelles sont les mesures que le gouvernement provincial ou le gouvernement national a pris pour assurer que ces personnes retrouvent tant soit peu les meilleures conditions qui puissent leur permettre d'avoir la paix?
Merci, M. Katende. Nous allons vous redonner.
Terminer en disant que tous les retournés sont principalement pris en charge par leur famille.
Merci, Maître Emmanuel Isaac Aboukapou, président provincial de la Société civile du peuple, une organisation de la société civile du Grand Kassai. Dans les rapports que vous venez de publier, vous saluez le travail des FRDC pour rétablir l'ordre et la paix dans les Kassai. Est-ce que vous pouvez expliciter vos propos?
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis honoré parce que avant, pendant, après, phénomène communautaire, vous m'avez toujours honoré dans ce débat. On a toujours dit chez moi, là, pour connaître bien une maison, il faut y passer une nuit. Nous, moi, tel que je vous parle là, je vis au Kassai, moi et toute ma famille. Lorsque nous félicitons, nous encourageons le travail qui a été abattu hier par l'armée, c'est parce que au Kassai, personne ignore. En 2007, il n'y avait pas l'autorité de l'État. On devait retrouver aucun chef de secteur. On devait retrouver dans nos territoires aucun administrateur. On devait pas retrouver dans nos territoires, même pas la simple police. Ça veut dire que l'autorité de l'État était en l'air. En tout cas, pas n'en parlons même pas. C'est pourquoi nous disons que l'armée a pu faire un grand travail d'abord de pacifier l'espace Grand Kassai. Vous pouvez vous imaginer, en 2017, c'était les miliciens et les éléments qui arrêtaient, qui faisaient les lois. On vous arrête, vous êtes condamné devant les Tchouta là-bas. Et là, maintenant, aujourd'hui, pacifiquement, poliment, tu peux circuler tous les Kassai en général. Ça, il faut reconnaître le travail qui a été abattu par l'armée. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO qui est jusqu'à Kamako. Hier, la MONUSCO n'arrivait pas à Kamako. Aujourd'hui, la MONUSCO est même à Timbulu. Alors, ne pas reconnaître que l'armée a fait un grand travail. Là, nous ne sommes pas des Kassai. Là, on vit en dehors. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un Kassaïen, à côté de celui, non, écoutez, nous voulons enlever le militaire. Il va vous dire, nous n'enlevez pas les militaires, nous voulons vivre avec les militaires. Mais je suis d'accord parfaitement avec le président qui venait de parler avant moi, par rapport au secteur recommandation, non exécuté jusque-là. Mais par rapport à l'armée et la police, le travail qui a été abattu et encouragé. C'est ce que nous disons comme acteur social vivant dans la province.
Voilà, il y a aussi quelqu'un qui vit à Kananga qui dit ceci. Il s'appelle Serge Mbouy, il dit ceci. Qu'on cesse de traquer et d'arrêter les paisibles des citoyens. Qu'on libère les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement. Il règne la psychose, un climat malsain au Kasaï central, et cela est susceptible de provoquer de nouvelles violences.
Tout à fait. Récemment, j'étais invité à un conseil des secteurs élargis. Nous avons parlé pour les personnes arrêtées. Il y a plusieurs gens qu'on a arrêtés. Nous avons plaidé pour qu'ensemble avec le gouvernement provincial et le procureur général qu'on voit qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi pour qu'il soit libéré. Mais ce qu'il dit, je suis parfaitement d'accord avec lui parce que nous vivons là. C'est qu'il y a un phénomène actuellement qu'on nous l'a dit. Mais Dieu merci encore parce que lorsqu'on fait la police, les gens pensent qu'on fait du mal. Dieu merci encore parce que notre police, au niveau de la ville de Kananga, a mis la main sur ces aventuriers, ces bandits qui volaient armés. Voilà pourquoi nous disons, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des recommandations qu'on n'a pas pu exécuter jusque maintenant. Et il y a aussi de quoi encourager. Parce qu'il faut encourager quelqu'un pour qu'il ait en avoir. Mais quand même, nous avons dit dans notre rapport, nous avons demandé à l'auditeur général d'accélérer des dossiers de certains policiers et militaires qui ont semé les terres au Kasaï. Des militaires et policiers sont identifiés. Mais les dossiers-là sont en train de traîner. Dans notre rapport, nous avons dit, je vous avais dit la fois passée, ici dans votre studio, que moi qui travaille au moins, je ne peux pas m'acheter des unités de 100 dollars. Mais il y avait les miliciens qui nous envoyaient des unités de 50 dollars pour communication. Mais pourquoi ces politiciens-là, qui soutenaient, qui finançaient moralement, matériellement les miliciens, sont libres? D'ailleurs, j'étais étonné de voir ces politiciens-là postuler. C'est ce qui est encore grave. On a mis la province en moule, aujourd'hui, ils sont là, ils préfèrent encore postuler pour qu'ils soient encore votés demain. C'est triste pour notre province.
Emmanuel Isa Kabukapu, dans les rapports du GIEC, il est mentionné le recours disproportionné à la force par le FRDC, notamment les cas des massacres perpétrés dans la commune de Nganza à Kananga, et les rapports que la société civile du peuple a publié n'a pas fait état de cet aspect des choses.
Non, nous avons parlé, mais d'une autre façon. Nous avons dit ceci. Moi qui vous parle, j'ai toujours dit ça. J'étais dans la médiation entre le militaire et le milicien. Le militaire ont pu utiliser les armes. Tout à fait logique. Et le milicien aussi, on ne peut pas vous dire le contraire. Les miliciens avaient aussi des armes, ce qui était logique également. Une fois, j'ai été appelé par un colonel, lorsqu'on a enterré au niveau de Tchikaji plus de 23 militaires. Il me prenait, moi, à témoin. Il dit, Kabuka, vous venez voir. On a tué tous ces 24 militaires avec quoi? Noir sur blanc, c'était avec les armes. Donc, nous en avons aussi dit, c'est ce que nous avons voulu, que la justice puisse réellement aussi faire son travail. Les erreurs, ce sont là les erreurs, mais nous avons la justice pourquoi dans ces pays? Nous avons la justice pour régler les choses.
Et quelle est la situation sécuritaire actuellement dans l'espace Kasaï?
La semaine qui venait de passer, il y a deux semaines, la population de Kananga n'a pas passé paisiblement la nuit. Il y avait des vols armés presque dans tous les quartiers. Nous avons décrié la situation. Et en décriant la situation, Dieu merci ici, parce que certains bandits ont été bel et récupérés il y a trois jours. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont en prison. Et nous avons demandé au service de sécurité d'accélérer pour qu'on mette fin à cette situation, que la population retrouve sa vie normale d'habitude.
Alors, quelles sont devenues les femmes et les jeunes filles qui ont été arrêtées et on ne sait pas où elles ont été amenées? Vous avez suivi, cela a été dénoncé par la société civile. Est-ce que vous avez des informations sur l'essor de ces personnes, les jeunes filles et les femmes?
Merci. Je vous donne encore un exemple pour vous répondre à cette question. Il y a eu des raillements au Kasaï occidental il y a un mois. Nous-mêmes, nous sommes déplacés pour vérifier. En arrivant sur place, on a trouvé qu'il y a eu une seule maman qui était décédée. Mais à ma grande surprise, lorsque je lisais certains rapports de mes frères, surtout en Amérique, Europe, je ne sais pas moi où, et parlaient de 100 personnes qui étaient décédées, ce qui était anormal. Je me pose souvent plusieurs questions, mais c'est les journalistes. Pourquoi chez nous au Kasaï, là, les gens veulent toujours aggraver les choses? On vous dit qu'il y a eu deux morts. Lorsque vous donnez les informations de deux morts, on ajoute 2 zéros à la fin, ça devient 2000 morts. Lorsque vous dites qu'il y a eu 5 morts, on vous dit que c'est 50 morts. Pourquoi nos frères veulent toujours qu'on parle en mal pour les Kasaï? Ce qu'on vous dit là, j'étais à Tchikapa il y a deux semaines, lorsqu'on a fait la marche de la paix avec la MONUSCO, les FARDC, la police et la société civile. C'est pendant que j'étais à Tchikapa, on me dit que voilà, on vient de tuer à Kamonya 320 personnes. Nous sommes partis avec la MONUSCO. À Kamonya, on n'avait même pas tué deux personnes. Mais les rapports sur les réseaux sociaux. Mais des informations-là, on en tire de qui?
Vous venez de suivre Maître Katende qui a parlé des retournés, n'est-ce pas, qui sont dans des conditions difficiles. Est-ce que vous avez cette information?
Tout à fait, parce que le gouvernement de la République n'a pas pu faire quelque chose. Il y a certains organismes, structures, qui aident nos frères qui quittent l'Angola surtout. Mais de la part des ministres nationaux de l'affaire sociale et affaires humanitaires, rien n'est fait. Là, nous décrions. Nous disons, au moment où nous parlons, les Kassai centrales, les Kassai, on devait avoir les actions de développement. Il y a trop de ravins à Kananga. On n'en parle pas. Il y a des chômages. On n'en parle pas. C'est le moment aussi donné au gouvernement provincial, y compris aussi national, de toucher l'aspect développement de notre territoire.
Merci, professeur Boyda Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Votre analyse par rapport à ces deux rapports, n'est-ce pas, celui des GIEC et de la société civile du peuple sur les violences au Kassai?
Ben, disons que les rapports en question portent sur les faits. Certains peuvent peut-être être exagérés, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit de faits. Alors, la première leçon que l'on puisse tirer du conflit, tel que le ressort de ce rapport, c'est d'abord sa qualification. Vous savez que depuis bien longtemps, on n'a pas voulu du tout mettre en exergue l'origine du conflit. Parce que lorsqu'on parle des miliciens, comme Inasapu ou d'autres tueries, il y en a même qui parlent de conflits ethniques. Alors qu'en réalité, c'est la première fois depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'un chef coutumier est abattu par les forces de l'ordre. Il est vrai que si on entend la police, l'armée ou le pouvoir, le chef lui-même était armé, qu'il avait des miliciens. Or, en réalité, ce conflit coutumier, c'est un conflit juridique entre une autorité coutumière et le gouvernement de la République. Normalement, lorsqu'il y a un conflit de pouvoir, l'affaire devrait se terminer, l'épilogue devrait se terminer devant les juridictions pour vérifier qui a la compétence de faire quoi. Le droit congolais reconnaît que le pouvoir coutumier relève de la coutume, c'est-à-dire du droit précolonial qui régissait ces peuples lorsqu'ils se constituaient, qui dans des principautés ou dans des états précoloniaux. Donc, on se serait attendu dans un état de droit, comme la République démocratique du Congo, que ce conflit entre l'autorité coutumière et le gouvernement de la République se termina devant les juridictions, c'est conforme aux lois. On a été surpris de voir que ce conflit juridique d'interprétation des compétences des normes s'est terminé par un même sang qui a pris l'ampleur que l'on sait. Et tout à l'heure, M. Katende parlait de la confusion qui existe, les chefs coutumiers qui auraient été incorporés dans des partis politiques. Nous nous sommes battus depuis des années pour poser le principe de la réhabilitation du pouvoir traditionnel afin que ce pouvoir traditionnel fasse le pendant du pouvoir républicain que nous avons importé de l'Occident pour réconcilier le Congo, l'Afrique, avec son passé précolonial. Ce qui a été fait dans la loi avec la création de la chefferie et la consécration de la CPI comme entité territoriale décentralisée, c'est-à-dire la réhabilitation du gouvernement de la CPI, de l'Assemblée de la CPI, toutes choses par ailleurs qui honorent la République démocratique du Congo quand on fait une comparaison avec d'autres pays qui ont voulu la décentralisation. Mais indépendamment de cet acquis juridique, ce conflit est venu carrément ruiner tout ce qui a été pensé pour pouvoir aller un peu de l'avant dans ce sens. Et nous avons posé le principe de la républicanisation du pouvoir traditionnel en partant du principe que un chef coutumier, dès lors qu'il est réhabilité comme autorité coutumière, il ne peut pas fonder un parti politique, il ne peut pas participer à un parti politique, il faut lui attribuer des émoluments ou mensuels ou annuels pour le mettre dans une situation d'indépendance. Imaginez-vous si Moati avait un membre de l'UDPS. Comment voulez-vous que d'autres partis aillent battre campagne dans cette contrée? En conséquence de quoi, cet élément que M. Katende était en train de suggérer tout à l'heure, à mon avis, c'est un élément fondamental. Si l'on veut demain que dans ces contrées où l'État n'a jamais été présent et que ces chefs coutumiers, ce sont eux qui, depuis des années, ont toujours tenu l'ordre et aidé les populations du mieux qu'ils pouvaient. Dois-je rappeler que depuis les années 60, les provinces du Kassai aujourd'hui n'ont jamais connu le moindre investissement de l'État congolais, du gouvernement de Lumumba jusqu'au gouvernement de Mobutu. Kananga était une des villes électrifiées pendant la colonisation, qui était même bitumée, qui avait des écoles partout. Mais il suffit d'aller dans ces contrées aujourd'hui, même avant les événements comme Inasatu, pour constater le déclin. Nous sommes là face à une société complètement dévastée. Les jeunes diplômés dont on parle aujourd'hui, ils n'ont pas d'emploi, ni à Kananga, ni à Mbujimayi, ni à Tshikapa.
Professeur,
c'est une vérité.
Oui, oui. Lorsque vous parlez de cette précarité de la vie dans l'espace Kassai, on peut considérer comme étant les faits, hein, n'est-ce pas, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qui peuvent justifier les craintes exprimées par les GEC lorsque celui-ci parle des risques des nouvelles violences.
Mais évidemment, parce que on est déjà dans une dans une situation sociopolitique, socio-économique totalement détériorée. Dois-je vous rappeler, pour les jeunes gens d'aujourd'hui qui n'ont pas les souvenirs de notre âge, dans les années 60-70, lorsqu'il y avait le diamant partout, que ce soit à Tshikapa et même au-delà à Kamunya, dont on parlait tout à l'heure, Tambakabongo, etc. Mais la plupart des jeunes gens qui sont venus à l'école après nous, les jeunes gens ne sont pas allés à l'école. Pourquoi? Mais parce que l'école, ce n'est pas l'argent. Beaucoup de jeunes étaient attirés par le diamant. Beaucoup de paysans ont abandonné l'agriculture avant même le renversement du régime de Mobutu. Il y avait déjà une précarité énorme dans l'ensemble kassaïen. Mais ceux qui ne voulaient pas voir, ne voulaient pas voir. Or, le phénomène comme Inasatu est venu aggraver une situation qui était chaotique.
Merci.
C'est pour cela que ce rapport a raison de mettre en garde. Bien entendu, comme le représentant, le responsable de la société civile de Tshikapa ou du Kassai tout à l'heure, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le gouvernement a fait ce qu'il est en train de faire. Il y a un effort qui a été fait de deux parts. La société civile, le gouvernement, les miliciens, avec l'installation du nouveau chef, Kamina Satu, c'est déjà un pas. Mais est-ce qu'on peut se contenter de cela? Non.
Merci,
si on
professeur.
Veut sauver la situation, il faut aller de l'avant et voir d'autres perspectives.
Merci. Maître Jean-Claude Katende, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. La crainte émise par ces groupes d'études sur la situation du Kassai est certes fondée, mais ces groupes qui vivent à l'étranger et ne maîtrisent pas la situation sécuritaire du pays doivent tout simplement faire confiance au gouvernement qui cherche à imposer son autorité sur l'ensemble du territoire national. Il est donc temps que ceux qui manipulent le jeune pour leur intérêt égoïste cessent. Car on peut bien accuser le gouvernement de tuer son peuple. Mais n'oublions pas que dans ces pays, certains acteurs politiques y sont pour beaucoup dans des violences qui ont occasionné la mort de plusieurs Congolais pour leur fin politique ou pour se faire de la popularité.
Maître Jean-Claude Katendi.
Oui, je pense personnellement que le débat que nous avons ici avec... les professeurs et notre collègue qui est à Kananga, nous avons tous constaté que ce rapport ne dit pas le contraire de ce qui se passe sur terrain. Toutes nos interventions vont dans le sens de démontrer que le gouvernement n'a pas fait un certain nombre de choses pour que les conflits que nous avons connus ne puissent pas revenir. Donc, sur cette question-là, je ne comprends pas pourquoi notre frère qui est à Lubumbashi dit que ce groupe d'études a fait un travail qui n'est pas conforme aux faits sur terrain. il n'y a pas que ce groupe, il y a d'autres groupes congolais, des frères et des sœurs qui sont à Kananga, qui sont dans l'espace Kasaï, qui ont mentionné les mêmes faits. Et donc, je ne vois pas le problème. Là où je suis d'accord avec lui, et je l'avais déjà dit, qu'une des manières d'assainir la situation, c'est de laisser la justice mener des enquêtes de manière indépendante. Que les gens des Kamwene-Nsapu qui ont été à la base des violations des droits de l'homme soient arrêtés et traduits devant la justice. Les miliciens Banamura qui ont aussi tué les gens, qui soient aussi arrêtés. Les responsables de l'armée comme de la police, mais aussi certains acteurs politiques qui étaient à la base de ces conflits, il faut aussi qu'ils soient poursuivis et traduits devant la justice. Il ne faut pas que la justice s'intéresse à une aile seulement en laissant d'autres personnes. C'est malheureusement ce que nous constatons. On a poursuivi les miliciens de Kamwene-Nsapu, mais nous n'avons pas vu où on a poursuivi les miliciens Banamura. Nous n'avons pas vu où on a poursuivi certains politiciens qui ont alimenté les conflits au Kasaï. Les militaires et les policiers qui ont armé les Banamura, nous ne les avons pas vus dans un procès organisé par les institutions qui ont la charge de le faire. Et là, nous disons que si la justice n'intervient pas, il est malheureux parce que la justice peut contribuer à sanctionner les mauvais et à gratifier ceux qui sont bons. Quand on parle de l'intervention de l'armée, je suis tout à fait d'accord, c'est le travail de la police de maintenir l'ordre, de l'armée de protéger les frontières de la République démocratique du Congo. Mais quand on envoie des militaires dans un conflit qui relève, qui peut être contrôlé par la police, et nous arrivons à des abus comme on l'a constaté. Il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, tant par les militaires, la police que les Kamwene-Nsapu aussi, et sans oublier les Banamura. C'est à ça que nous disons, c'est pour ça que nous disons, c'est vrai que on remet l'ordre, mais il ne faut pas que cet ordre que l'armée est en train de remettre soit fait en violation des droits de l'homme. Vous avez appris qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées de manière arbitraire. C'est cet arbitraire auquel il faut absolument mettre fin si on veut que la paix soit restaurée dans le Kasaï. Et vous savez, le professeur l'a dit, vous savez aussi que l'espace Kasaï est en fait une des parties de notre pays qui n'a pas bénéficié des effets des cinq chantiers de la République, comme on l'a vu dans d'autres provinces.
Merci, maître.
Est-ce qu'il y a des raisons à cela? Nous pensons que c'est une injustice qu'il faut réparer.
Merci, merci, maître Emmanuel Isaac Kabukapu. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kananga.
C'est Ben Oscar Kabouya à Kananga, au Kasaï central. Tant que le gouvernement congolais fait traîner les revendications issues de la conférence de paix dans les tiroirs, il y a toujours beaucoup de risques de revivre une fois de plus les violences dans l'espace Kasaï. Et par ailleurs, il y a une semaine, nous avons remarqué quelques personnes en train de vider leur village voisin pour trouver refuge au centre-ville, disant craindre les atrocités des forces de l'ordre sur le paisible villageois. Cependant, le rapport de la Société civile du Grand Kasaï est un faux rapport du fait qu'en ces jours, les hommes à main armée opèrent tous les jours en plein centre-ville de Kananga, violant, pillant et tuant la population sous l'œil impuissant du pouvoir public. Parlerons-nous alors de l'ordre et de la paix dont évoque la dite Société civile?
Emmanuel Isa Kabukapu.
Merci. Avant de répondre à mon frère qui venait de poser la question, je ne suis pas d'accord avec le président Jean-Claude Katende lorsqu'il dit qu'on a fait appel à l'armée. Non, mais la police a été débordée. C'est ça. C'est pour cela qu'on lui dit qu'il a habité ailleurs. Lorsqu'on ne vit pas dans la maison, on ne peut pas comprendre. La police a été débordée. C'est ainsi qu'on a mis l'espace Kasaï en cette opération. C'est la vie que nous avons. Si vous me voyez,
mais cela ne doit pas justifier les bavures, n'est-ce pas, voilà, de l'armée.
Non, c'est là le problème. Les brebis gazettes ne manquent pas dans une société. C'est pourquoi il y a la justice. La justice est faite pour les gens pareils.
Nous avons même, nous-mêmes, comme ce suivi, nous avons saisi l'auditeur supérieur à Kananga, et il y a 3-4 militaires devant la justice à Kananga pour les habits. Alors, c'est pour dire que si on a fait appel à l'armée, bien entendu, c'est parce que la police, notre police était déjà foutue. Ça, c'est un... Mon frère me dit, c'est un faux rapport. Oui, ça, c'est le langage que lui. Ce n'est pas le rapport de Kabuka pour Kassenessel. Il y a dans le vaisseau civil, il y a tout et tout. Nous sommes plus de 7 structures. Lui ne vit pas au Kassai. Nous, on n'encourage pas l'armée. On encourage non plus seulement la police. Mais nous disons, c'est un pas, comme l'a bien dit le professeur. C'est déjà un débit. Alors, profitons de ce débit-là pour encourager, pour qu'on ne retombe pas dans l'ancienne situation. Mais c'est le journaliste, moi, je m'étonne à un moment. Lorsqu'on ne sait pas reconnaître que l'armée a fait le travail, la police a fait le travail, là, nous-mêmes, on est totalement déçus. Et aujourd'hui, vous êtes à Tchikapa, par exemple. Vous êtes à Tchikapa. Vous voyez un général de la police à Tchikapa faire les pieds, ça, avec une moto. Vous vous rendez compte? Dans notre rapport, nous avons demandé au gouvernement de la République de doter la police de Tchikapa avec les véhicules. À Kananga, on va vous dire que tous les véhicules sont en panne. Vous voyez le colonel là, ce qu'il a à pied.
Emmanuel Isa Kapokapou, comment vous expliquez ces dysfonctionnements de la justice, comme l'a relevé Maître Katende, et alors que on se rappelle qu'à la conférence de Kananga en septembre dernier, les chefs de l'État avaient promis que personne ne serait épargné dans cette affaire.
Nous sommes en train de décrire tout ça. Or, la justice devait mettre les yeux, devait ouvrir ses yeux au Kassai central et au Kassai. Il y a les gens, il y a les vrais criminels. Il y a les gens qui ont soutenu les faits. Mais si on ne fait rien au niveau du parquet, l'auditorat militaire ne fait rien. Alors, comment voulez-vous? C'est pourquoi nous avons un grand travail avec le maître Jean-Claude, et nous-mêmes, nous devons nous souder à un seul homme pour demander au gouvernement, pour demander à la justice de faire son travail. Si la justice ne fait pas le travail, tout ce que nous on fait, ça sera ni les sans effet. Mais si la justice, au moins, doit faire son travail, nous allons sauver la province.
Professeur Moïla Tchiembe, il y a une réflexion pour vous, elle vient de Bukavu Sud-Kivu.
Amos Bissima, j'appelle la partie de la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu. En analysant la manière dont les conflits qui ont fait des victimes et des dégâts matériels incalculables au Kassai ont été gérés, on peut donner raison au GIEC, car il est difficile, voire impossible, de résoudre un conflit tant on n'a pas analysé avec minutie ses vraies causes. Comment comprendre qu'on n'ait pas fait directement la réconciliation au Kassai au moment où on n'a pas connu l'étape de la vérité, qui devait permettre à connaître qui a fait quoi dans l'atrocité avant l'application de la justice distributive? Cette façon d'agir a fait allusion non seulement à la publicité du pouvoir en place, qui ne voulait pas que la vérité soit connue dans la situation de triste mémoire que nous avons connue dans cette partie de la République, mais aussi ça montre que les mêmes conflits peuvent reprendre pour l'agenda que ces auteurs connaissent au détriment de la pauvre population qui sera toujours victime.
Professeur Moïla Tchiembe.
Je pense que dans le propos de notre ami de Bukavu, il présente une approche. La recherche de la paix peut passer par deux approches. D'abord, punir, donc priorité à la justice, et la paix vient après. Une autre approche est de dire, on fait d'abord la réconciliation et on fait la justice après. Vous savez, dans les affaires notamment célèbres de tous les Congolais qui ont été envoyés à la Hague, que ce soit Thomas Lubanga, que ce soit Katanga, etc. Lorsqu'il nous a été demandé de commenter ces situations, nous avons dit que la justice, pour soit la vraie, pour qu'elle ne soit pas accusée d'être la justice de vainqueur, il faut qu'elle se fasse dans des conditions où la défense est assurée et l'ensemble des principes qui participent à la faisabilité de la justice soient respectés. Le fait que quelqu'un qui est accusé est d'abord considéré comme une personne innocente jusqu'à ce que le juge, après avoir vérifié les faits, atteste de sa culpabilité. Donc, toutes ces conditions préalables doivent être respectées. Or, lorsqu'il y a conflit, comme on en a connu ailleurs ou dans l'espace kassaïen, on veut mettre fin au conflit rapidement, rassembler les gens, il est parfois préférable de faire la paix et de juger après. Et je sais que même entre nous les juristes, tout le monde n'a pas la même option. Mais c'est la thèse que nous avons toujours défendue dans le cas de personnalités dont je viens de citer le nom, le gouvernement congolais. Imaginez-vous si le gouvernement congolais avait mobilisé ses militaires pour aller chercher Thomas Lubanga, pour aller chercher Katanga ou même Ngoujolo, il y aurait eu des morts. On ne sait même pas s'il les aurait attrapés. Donc, le fait d'abord d'avoir fait la paix avec eux a permis au gouvernement, à moindre coût, de les envoyer à la haie. Et ils sont jugés. Aujourd'hui, personne ne conteste le jugement qui a été rendu. Donc, il y a deux approches de la paix. Le gouvernement a choisi une autre option. Pour l'instant, il y a, d'après nos collègues et amis qui vivent sur place, un minimum de paix civile qui a commencé, même si toutes choses étant égales par ailleurs, il y a des tueries à Kananga, à Chikapa ou ailleurs. Mais ce qu'il faut, à mon avis, comme solution prioritaire, c'est le rassemblement de la société civile, du gouvernement, d'abord provincial, de l'ensemble du gouvernement central, pour que de tous ceux qui peuvent créer les richesses, les hommes d'affaires, les jeunes, on a parlé du chômage des jeunes tout à l'heure, s'il y a une mobilisation de tout le monde, et si le gouvernement peut sentir le besoin, pas seulement des discours, mais donner le peu de moyens de la République qui existe, pour que l'espace kassaïen ne se contente pas seulement de mots, on peut peut-être espérer que demain les choses pourront changer. Et un autre élément, c'est que ces changements ne peuvent pas seulement se limiter à la création des richesses. Mais il faut aussi que l'espace kassaïen soit un espace de droit.
Oui, professeur.
La lutte contre l'impunité doit être une des clés de la recherche des solutions pour l'ensemble de cette contrée.
Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Et au-delà de tout ce que vous avez dit, professeur, une autre question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir comment les conséquences des violences ont été gérées. Et logiquement, on devait envisager un mécanisme, n'est-ce pas, des réinsertions dans la société, des personnes qui ont accepté de quitter les différentes milices, mais apparemment cela n'a pas été fait. Est-ce que ce n'est pas l'un des éléments aussi qui justifie la situation qui prévaut actuellement?
Évidemment, la situation du refus. Il y a eu ces violences des Kamina Sapu inattendues qui ont bouleversé tout le champ politique et socioculturel de l'ensemble kassaïen. Lorsque le gouvernement a voulu reprendre les choses en main, le temps est très court. Il y a les élections en vue. Il y a les problèmes d'enrôlement qui étaient à l'horizon. Il fallait tout faire pour que les enfants aillent passer leurs examens d'État. Donc, ce temps court a fait que le gouvernement, la société civile, l'ensemble des forces vives de cette partie, y compris le gouvernement, ont fait ce qu'ils ont pu,
merci,
ne fût-ce que pour colmater les brèches. Il faut souhaiter que cet effort soit prolongé dans la durée et jusqu'à la date des élections et en espérant qu'après les élections, les autorités nouvelles du pays prendront les choses en main,
merci,
et essayeront de régler au mieux la situation de cette contrée.
Merci, professeur. Maître Jean-Claude Katendi, qu'est-ce que vous formulez comme vœu? Ça sera sur votre conclusion.
Je pense que le gouvernement est appelé à mettre en œuvre les recommandations faites au forum sur la paix au Kassaï. Je crois que le seul fait d'émettre ces recommandations faites à la demande du président Joseph Kabila, c'est déjà un grand pas. Mais fort malheureusement, nous constatons que ce n'est pas fait.
Merci.
Et nous en appelons au gouvernement de pouvoir tenir sa parole.
Merci.
Pour que la paix revienne dans cette contrée.
Merci, maître Jean-Pierre, Jean-Claude Katendi. Emmanuel Isaac Abukapu, votre conclusion.
Nous demandons prophète des malheurs, les gens qui croient encore qu'il y aura nouvelles violations au Kassaï, qu'ils vont rencontrer sur leur chemin Kadima Mwakudie, Bakolo, Ailunga. Nous avons besoin de la paix et développement. C'est ainsi que je profite de votre micro pour demander au gouvernement central de nous aider, faire les moyens. Nous voulons, il y a trop de ravins au Kassaï, il y a trop de chômage, il y a des écoles non construites. Tout ça, ça demande des moyens que le gouvernement national
combattre la précarité.
Tout à fait.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.